Aujourd'hui, Jonathan Thomas va nous parler de Disque Berto, une maison de disques qui a notamment produit de nombreux disques pour l'Action française, un mouvement politique royaliste, catholique, nationaliste et antisémite très influent dans les années 1930. Disque Berto, si l'on compare le nom de cette maison de disques avec celui des autres dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, c'est bien le seul qui fasse référence à une personne. En l'occurrence, il s'agit du créateur de cette maison de disques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette personne ?
Oui, bien sûr. Berto est le pseudonyme que s'est donné André Daviel, qui a choisi de faire carrière donc sous le nom de Jacques Berto. Alors Jacques Berto est surtout connu aujourd'hui pour sa carrière de producteur de spectacle, producteur parisien, qui a exercé des années 20 jusqu'à sa mort. Il a notamment dirigé le Théâtre des Champs-Élysées de 1920 à 1925, organisé des tournées de spectacles en Europe, écrit des chansons, dirigé la revue de bon goût intitulée Monsieur, a été un des grands acteurs de la nuit parisienne de l'entre-deux-guerres et fondé également une association d'aide aux élites françaises en 1928. Après la guerre, il a aussi fondé un théâtre qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Théâtre Héberto. Aujourd'hui, il est peu connu qu'Héberto s'est engagé dans la production phonographique dès le début des années 30. Il a d'abord enregistré un répertoire éclectique, composé de danses, d'ouvertures d'opéra, d'extraits de pièces de théâtre, de pièces du répertoire romantique, donc Chopin, Schumann, au piano, ainsi que les premiers disques de la Manet Cantrie des petits chanteurs à la Croix de Bois, le chœur catholique de jeunes garçons qui existe toujours aujourd'hui. Donc tous ces disques, qui ne relèvent pas directement de la propagande politique, ont été à l'époque reconnus pour leur excellence par la presse spécialisée. Et on peut dire que ces disques montrent qu'Héberto a poursuivi à travers eux le travail qu'il avait commencé à faire en tant que journaliste, en tant que producteur de spectacles et président donc de cette association qu'on pourrait qualifier d'élitiste et même d'élitaire. Par ailleurs, ce qu'on sait moins également, c'est qu'Héberto a été un fervent militant royaliste et qu'il a produit des disques de propagande pour l'Action française entre 1931 et 1938, sans pour autant avoir été un membre de cette ligue. Or, il se trouve qu'à la fin des années 20, Jacques Héberto est dans une période difficile sur le plan professionnel et qu'il songe à donner corps à son royalisme par la production de propagande, justement. Héberto va donc produire des disques royalistes et c'est à ce moment qu'il est très probable qu'intervienne son ami Léon Daudet.
Et vous pourriez nous donner des détails sur le rôle qu'aurait joué Léon Daudet dans l'adoption du disque de propagande par l'Action française ?
Alors avant cela, je vais revenir un peu sur ce personnage qu'est Léon Daudet. Donc Léon Daudet, c'est le fils de l'écrivain Alphonse Daudet. Léon est lui aussi un écrivain, mais c'est aussi et principalement, pour l'histoire qui nous intéresse, une des figures majeures de l'Action française et de son journal. C'est un polémiste virulent et c'est un orateur qui est réputé pour son éloquence. Quand Héberto souhaite faire de la propagande pour le roi, c'est Daudet qui va tenter de le mettre en contact avec Charles Maurras, qui est la figure tutélaire de l'Action française, par l'intermédiaire de son épouse, Marthe Daudet. Par ailleurs, Daudet est également un amateur de phonographie. Il a enregistré quelques-uns de ses textes pour la firme Columbia en 1931, et sur le plan politique, il est absolument persuadé que le disque est une sorte d'agent du chaos, que le disque servira sous peu à semer la confusion, à déclencher des mobilisations violentes, ce qui est exactement ce que recherche l'Action française, qui veut remplacer la République par la monarchie, et qui recherche donc plutôt l'insurrection qu'une prise du pouvoir par les urnes. Donc Daudet montre qu'il a une conception du son technicisé comme une sorte d'instrument insurrectionnel, ou du moins comme un instrument qui permet d'obtenir un avantage tactique qui peut être décisif, comme quand les Camelots du Roi avaient fait des sortes de bidouillages sonores au milieu des années 20, en trafiquant des lignes téléphoniques pour obtenir de courts avantages stratégiques sur leurs adversaires, ou qu'ils avaient même organisé un canular pour faire évader justement Léon Daudet de la prison de la santé. Toujours est-il que Léon Daudet expose ses vues sur le pouvoir politique du disque dans l'Action française, donc, journal dont il partage la direction politique avec Charles Maurras, et que, en plus d'ouvrir ses réseaux à Jacques Héberto, Daudet peut soutenir ses disques de propagande dans son journal, autant en vantant leurs mérites qu'en publicisant et en organisant leurs usages par les sections royalistes qui sont présentes un peu partout en France.
Et les disques Héberto ont-ils été des agents du chaos ?
Alors, en pratique, pas vraiment, mais on peut quand même penser que certains de ces disques ont été conçus et ont été publiés dans des contextes propices pour que ces disques existent justement comme des agents du chaos. Donc pour dresser un portrait rapide du catalogue Héberto, on va trouver des chants, des hymnes royalistes, des disques de diction qui vont reproduire des documents historiques sur les derniers jours de Louis XVI, disques qui servent d'ailleurs aux réunions d'Action française comme une sorte de moment de pic d'émotion. Et donc ces disques-là vont servir un peu la propagande au long cours de l'Action française. Mais on va aussi trouver des disques qui vont avoir une utilisation plus contextuelle. Donc déjà, un enregistrement du manifeste du duc de Guise, donc le duc de Guise étant Jean d'Orléans, qui est prétendant au trône de France, dans ce texte, qui est publié au début de 1933, va proposer le retour du roi à la tête de la France pour en finir avec une crise sociale, économique, républicaine, alors en cours. Et ce disque vient compléter une campagne orchestrée, notamment par l'intermédiaire du journal de l'Action française, pour propager le plus possible ce court texte et lui donner l'influence nécessaire à cette révolution, entre guillemets. Après cela, Héberto va aussi sortir plusieurs disques à la suite des émeutes du 6 février 1934. Alors, ces émeutes insurrectionnelles se sont déroulées place de la Concorde, donc en face de l'Assemblée nationale. L'Action française et d'autres organisations d'extrême droite y ont pleinement participé, ainsi que des associations d'anciens combattants et d'ailleurs l'association des anciens combattants communistes, l'ARAC. Ce sont des émeutes qui se sont déclenchées dans un contexte, encore une fois, de crise de régime profonde. Ce sont des émeutes qui sont considérées dès le 7 février comme une tentative de coup d'État fasciste par la gauche et qui donc provoquent par la suite l'union des forces de gauche dans un front qui va s'appeler d'abord le Rassemblement populaire, puis le Front populaire et qui va déboucher en 1935 et en 1936 sur des victoires électorales majeures, d'abord pour les élections municipales, puis pour les élections législatives, menant donc au pouvoir le gouvernement de Front populaire dirigé par Léon Blum. Mais face à cette union des forces de gauche se dresse une union des forces de droite qui s'appelle le Front national. Et Héberto va enregistrer des chants qui correspondent aux hymnes ou aux chants que chantent les différentes formations de ce Front national. En parallèle de cela, Héberto va aussi tenter de faire de ce Front national une sorte de caisse de résonance pour l'Action française en enregistrant les discours de Maxime Réal d'Elsart, par exemple, de Marie Deroux, de Joseph Delest, qui sont tous des figures de l'Action française, pour qu'ils expliquent l'histoire de la Ligue et leur engagement royaliste. Le but ici est clairement de tirer un avantage d'un contexte d'agitation politique pour, en quelque sorte, faire pencher la balance du côté de l'Action française. Donc je dirais que les disques Héberto ont servi à faire de l'agitation dans des contextes dangereux pour la démocratie et pour la République, mais qu'ils n'ont été finalement à la source d'aucun chaos. Ceci dit, ces disques auraient peut-être pu avoir un effet plus important s'ils avaient été plus soutenu par le journal L'Action française, qui avait un lectorat assez fourni, qui dépassait largement le cercle des militants royalistes, et qui aurait pu donc, comme l'avait fait le populaire avec Arsa, flécher ses usages, suggérer ses usages, faire de la publicité, écrire des articles pour vanter leur pouvoir, et donc, à partir de l'imaginaire de leur puissance politique, donner un peu plus d'efficacité ou d'efficience à ces disques et à la propagande qu'ils portaient.
Alors, on sait que c'est le Front populaire qui a remporté en 1936 les élections qui ont suivi cette période d'opposition frontale entre la droite et la gauche. Comment se porte Disque Héberto pendant cette période ?
Alors, pas très bien à vrai dire. L'Action française est dissoute en février 1936 suite à l'agression de Léon Blum par d'anciens camelots du roi. Et Héberto ne va publier plus aucun disque pendant la période du Front populaire. Il va recommencer à publier quelques disques généralistes en 1937 ou 1938. Les dates sont assez incertaines. Et quelques disques royalistes. Mais on observe surtout l'apparition d'une nouvelle maison de disques sur laquelle on sait très peu de choses, qui a laissé a priori peu de traces et qui a pour nom National, ce qui la situe d'ailleurs directement dans le champ du politique, et qui reprend la majeure partie du catalogue politique de Disque Héberto, avec d'ailleurs la même norme de référencement au catalogue, et qui sort également quelques nouveaux disques royalistes. Donc l'activité de Jacques Héberto semble prendre fin peu avant le début de la guerre, et je n'ai pas retrouvé de traces d'une nouvelle activité après la Seconde Guerre mondiale.
La maman. du petit homme lui dit un matin, à 16 ans t'es beau tout comme notre Huchapin. Dans la ville tu peux faire un bon apprenti, mais pour labourer la terre, t'es ben trop petit mon ami, t'es ben trop petit.
La base de données PS2X est soutenue par le DIMPAMIR et la région Île-de-France. Elle est réalisée au Centre de recherche sur les arts et le langage, un laboratoire du CNRS et de l'EHESS, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.